Caroline Quash, bien sûr que vous connaissez, pédiatre, microbiologiste, infectiologue et épidémiologiste. Ça prend beaucoup de place sur une carte d'affaires, docteur Quash.
Ouais, c'est pour ça que j'ai pas de carte d'affaires.
Non, je vous taquine parce que on a appris tellement de mots très longs depuis le début de la pandémie, notamment confinement, déconfinement. Montréal a décidé de prolonger l'urgence sanitaire jusqu'au 4 juin, pour quelques jours encore. Est-ce que c'est indicatif d'une situation quand même qui s'améliore, selon vous, à Montréal?
Oui, je pense que généralement, les choses vont mieux quand on regarde le nombre de nouveaux cas positifs, malgré le fait qu'on continue à tester au même niveau, on est en baisse. Là, on est autour des 500 nouveaux cas par jour plutôt que 700, 800, 900 à une autre il y a quelques jours, semaines. Donc, je pense que ça va relativement mieux. On n'est pas encore sorti de l'auberge et c'est sûr que tout ce qui descend peut tout à fait facilement remonter si on ne suit pas les règles, puis si on commence à se regrouper à 50, 60 et de façon très rapprochée, et encore plus si on le fait à l'intérieur.
Est-ce que vous pensez qu'on est en mesure de mesurer, je dirais, l'état de la situation en vertu des déconfinements qui sont déjà amorcés, notamment à l'extérieur de Montréal, le retour des élèves du primaire en classe? Est-ce que maintenant on est capable de porter un premier jugement sur l'opération?
Bien, je pense que quand on regarde ce qui se passe dans le reste du Québec à l'extérieur de Montréal, ça semble quand même encore très stable. Il y a eu des cas de transmission dans les écoles, mais pas de grosses éclosions. T'sais, je pense qu'il faut réaliser que quand on déconfine, on s'attend à ce qu'il y ait une certaine transmission, mais ce qu'on veut, c'est que ça demeure dans le raisonnable et pour ne pas dépasser, en fait, les capacités hospitalières. Ce qu'on veut, c'est vraiment que les cas qui surviennent ne soient pas chez des personnes à haut risque de complications. Et donc, quand on a un ou deux enfants, bon, ça arrive, c'est plate, mais les enfants, tu sais, font un rhume puis ils s'en sortent. Donc, on considère que ce risque-là, par rapport au risque de confinement et d'isolement des enfants pendant de longues périodes de temps, c'est un risque qui est acceptable.
D'ailleurs, parlant des enfants, on est en train de considérer que probablement pour la rentrée scolaire de l'automne, on va être en mesure d'éliminer d'une certaine façon la fameuse distanciation de 2 mètres dans le cas des plus jeunes.
Oui, je pense que c'est une des options qui est sur la table où on se dit si on est capable de considérer une classe comme une bulle et que cette classe-là n'a pas d'interaction avec d'autres classes, à ce moment-là, on pourrait permettre aux plus jeunes d'avoir des interactions à moins de 2 mètres. Et évidemment, il faut continuer à surveiller. Si jamais il y a un enfant dans le groupe qui développe une COVID, à ce moment-là, tout le groupe serait mis en quarantaine pour être sûr qu'il n'y ait pas de transmission ou enfin le moins possible dans le groupe. Tu sais, je pense qu'on va essayer de le gérer comme les éclosions de gastro-entérite en garderie, par exemple, ou quand il y a une éclosion de gastro-entérite, c'est pas toute la garderie qui est fermée, mais c'est vraiment juste le groupe qui, lui, peut être retiré ou à tout le moins y avoir des interventions spécifiques au groupe. Donc, c'est encore une fois, là, c'est pour essayer de maximiser le développement des enfants, leur développement de toute leur capacité sociale, leur empathie et tout le reste. Là, il y a quand même d'autres choses qu'un enfant doit développer qui ne se mesurent pas aussi facilement qu'un cas d'infection.
Je trouve ça rassurant d'une certaine façon. On l'avait fait, docteur Quash, rappelez-vous, au cours des dernières années, lorsqu'il y avait des éclosions de rougeole dans certains secteurs.
Tout à fait. Donc, c'est sûr que quand il y avait une rougeole dans une garderie, dépendamment des contacts, de la ventilation, soit toute la garderie était considérée comme à risque, puis là, on regardait qui est-ce qui avait besoin d'être vacciné, qui est-ce qui avait besoin d'avoir des immunoglobulines, mais on faisait pas ça pour toute la région. Puis donc, c'est vraiment d'y aller. On va essayer d'utiliser le gros bon sens avec les connaissances scientifiques qu'on a à l'appui. Là. C'est sûr que tout bouge tout le temps, là, mais bon, on essaie. Je pense que de plus en plus, on commence à avoir des repères, mais c'est sûr qu'on va certainement continuer à en apprendre sur ce virus.
Oui, on en a déjà beaucoup appris en quelques mois.
Tout à fait, absolument.
Docteur Quash, je sais que la communauté scientifique est un peu divisée. Il y a tellement d'études qui sont publiées dans toutes sortes de revues, souvent des études d'ailleurs qu'il faut prendre avec un certain bémol parce qu'elles n'ont pas été révisées par ce qu'on appelle des pairs, des gens scientifiques. Donc, mais il y a tellement de publications. Notamment, les scientifiques semblent divisés sur la fameuse immunité. On dit qu'il y a des individus qui auraient, dans le passé, été exposés à d'autres coronavirus, n'auraient développé que des symptômes de rhume et qu'ils seraient donc plus forts, obtiendraient une certaine immunité face à la COVID-19 ou enfin au coronavirus COVID-2. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça, c'est pas clair. C'est une des hypothèses, mais le SARS-CoV-2 est tellement différent des coronavirus communs qu'il serait peu probable que notre système immunitaire dise « Ah oui, je l'ai déjà vu et donc je vais vous protéger un peu mieux ». Ce qu'on sait, par contre, l'autre là où on parle davantage de problèmes d'immunité croisée, c'est dans les tests de sérologie. Donc, il y a certains tests, pas les deux trousses qui ont été homologuées au Canada, mais dans les trousses qui avaient été utilisées, par exemple, aux États-Unis, certaines de ces trousses-là, de ces tests-là, quand on voulait savoir si une personne avait été exposée au SARS-CoV-2, le test pouvait sortir positif, alors que cette personne-là avait jamais vu le SARS-CoV-2, mais avait plutôt été exposée à un coronavirus commun dans le passé. Donc, c'est là où il y a eu des enjeux qu'on pourrait considérer d'immunité croisée. Mais pour ce qui est de la maladie actuellement, de la COVID, on n'a pas encore suffisamment d'évidence qui nous permettrait de dire que d'avoir fait le coronavirus dans le passé, un rhume quelconque il y a 2 ans, nous permettrait d'être protégés contre ce virus-ci.
Et c'est pour ça que la communauté scientifique est un peu comme vous venez de le faire, est très divisée là-dessus et très prudente.
Ah, tout à fait. Je pense que depuis le début de cette maladie-ci, à chaque fois qu'on a essayé d'être très dogmatique, on s'est fait tirer le tapis en dessous du pied puis on est tombé. Donc, je pense qu'il faut se garder une petite gêne puis essayer vraiment de faire le tri dans les données qui sortent. Puis c'est sûr que quand on a des données observationnelles, c'est-à-dire qu'on fait juste suivre les gens comme ça dans le temps, il y a toujours des risques de biais. Puis selon les échantillons, selon les analyses, c'est possible qu'une étude dise une chose et la prochaine dise son contraire. Ouais. Donc, on attend.
Docteur Kouach, est-ce que vous pensez qu'on est trop optimiste sur l'échéancier de vaccins? Je dis au pluriel parce que il n'y a pas un seul labo, là. Il y en a plusieurs qui disent, même le docteur Fauci aux États-Unis dit qu'il est peut-être réaliste de penser à l'apparition d'un vaccin qui serait efficace avant même la fin de cette année.
Non, je pense qu'il parlait plutôt de 12 à 18 mois, Dr Fauci.
Ah, il a dit peut-être que chez l'étude de Moderna, là, peut-être qu'on pourrait y arriver en décembre. Pas nécessairement la production du vaccin, mais l'authentification, si on veut.
Ben, je pense qu'on a espoir d'être capable d'avoir un vaccin en phase 2 d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire que les études de phase 1 où on a commencé à utiliser le vaccin chez l'humain, où on est capable de démontrer que c'est sécuritaire sur des petits groupes, que ça produit une réponse immunitaire. Ça, je pense que d'ici la fin de l'année, on va avoir passé cette étape-là, puis on va être rendu à faire des études sur des plus grands groupes de personnes avec différentes, plus âgées, plus jeunes. Mais je pense qu'avant d'avoir un vaccin qui soit prêt à être homologué, ça va prendre encore 12 à 18 mois. Mais effectivement, les études jusqu'à maintenant sont positives.
Ça va dans le bon sens. Dr Kouach, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Caroline Kouach.